Bon, nous poursuivons notre étude sur la théologie réformée systématique. On est rendu à la leçon 12. On est encore dans la révélation générale. C'est la partie 2. Donc, la semaine dernière, on avait vu la révélation générale, la création et la conscience. Et cette semaine, on va regarder la philosophie et la science. Donc, ce qu'on veut examiner cette semaine, c'est les deux choses suivantes. On va regarder la place des systèmes philosophiques qui sont développés par les incroyants dans notre utilisation de la théologie réformée, systématique. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder la place de la science et les principes qu'on se devrait d'avoir pour avoir une approche chrétienne de la science. Alors nous savons que toute connaissance et toute habileté viennent du Seigneur. Dieu est l'enseignant de l'humanité, que ce soit par sa providence ordinaire ou par sa révélation spéciale. De la même manière qu'il nous a donné des oreilles et des yeux, on va aller regarder le psaume 94, versets 9 et 10. On va voir de quelle façon on peut faire un parallèle entre ce qu'on vient de dire. Alors, le psaume 94, versets 9 et 10. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Alors, on a vraiment la phrase à regarder ici, c'est que c'est Dieu qui donne à l'homme l'intelligence. Alors, le fonctionnement ordinaire de notre esprit pour penser et comprendre dépend de l'activité continue de Dieu pour transmettre la perspicacité et la capacité. Seuls les orgueilleux et les insensés refusent de reconnaître qu'il est celui qui nous instruit, qui nous donne l'intelligence. On va le voir dans le psaume 30, dans le chapitre 35 du livre de Job, les versets 10 et 11. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Alors, les deux choses à voir dans ce passage-là, c'est qui nous instruit et nous donne l'intelligence. Donc, c'est le Seigneur qui nous instruit, c'est lui qui nous donne l'intelligence. La foi biblique ne nous empêche pas, ne nous oblige pas, excusez, ne nous oblige pas à nous enfermer dans notre petit monde et à négliger les arts et les sciences humaines. Calvin a affirmé que les disciplines académiques humaines, telles que le droit et la politique, les sciences naturelles, la logique et la rhétorique, la médecine et les mathématiques, peuvent être utilisées par les chrétiens. Il a déclaré, alors je cite Calvin, si le Seigneur a voulu que nous soyons aidés dans de tels domaines par le travail et le ministère des impies, utilisons cette aide. Calvin a également dit que sans un fondement solide de vérité biblique, la compréhension de l'homme est une chose instable et transitoire aux yeux de Dieu. Cela ne fait-il pas écho à ce verset, psaume 94, verset 11? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Les chrétiens vivent une tension dans leur relation aux efforts culturels humains. D'une part, les chrétiens reconnaissent dans les arts et les sciences de nombreux et utiles dons de Dieu. D'autre part, les chrétiens doivent être vigilants et avisés dans leur utilisation de la culture humaine. Dans cette leçon, nous allons retracer la tension et donner quelques orientations concernant deux disciplines académiques étroitement liées à la théologie, la philosophie et la science. nous ne parlons pas en tant que spécialistes de ces domaines, mais en tant que théologiens et chrétiens cherchant à les apprécier et à les évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on va regarder un peu plus en détail le premier point. C'était la place des systèmes philosophiques développés par les incroyants. Quelle est la fiabilité des philosophies de l'homme? Comment la philosophie rationnelle pourrait-elle aider les chrétiens dans leur travail de connaissance de Dieu et de compréhension de notre monde? Comment l'usage des catégories philosophiques, anciennes ou modernes, pourrait-il corrompre la théologie chrétienne? La philosophie a une histoire longue et diversifiée. Premièrement, elle est enracinée dans les anciennes cultures polythéistes de nations telles que l'Égypte, la Grèce, Rome, l'Inde, la Perse et la Chine. Deuxièmement, elle a été développée dans des directions monothéistes par les Juifs anciens et médiévaux, les chrétiens et les musulmans. Troisièmement, elle a été modifiée et souvent sécularisée dans des formes modernes de rationalisme, d'empirisme, d'idéalisme, d'existentialisme, de pragmatisme, de philosophie analytique, de postmodernisme. Alors, on voit trois choses là-dedans. On voit que c'est enraciné. On voit qu'elle a été développée par à la fois les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Et que troisièmement, tout cela a été modifié et sécularisé. Comment les chrétiens doivent-ils regarder les systèmes philosophiques développés par les incroyants? Nous suggérons les principes généraux suivants. Premier principe, ils ne sont pas nécessaires pour connaître et glorifier Dieu. La Bible consiste en une révélation spéciale de Dieu, les Saintes Écritures. Cette révélation écrite de la Bible est suffisante. Alors, on regarde dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est un sérieux avertissement aux théologiens et aux chrétiens de ne pas surutiliser la philosophie des hommes qui peuvent nous éloigner de la fondation solide de la Bible. L'utilisation abusive de la philosophie pourrait aussi contribuer à nous donner une vision chrétienne déséquilibrée ou même erronée. La Bible et la substance du message et de la vie de l'Église est toujours et restera toujours la parole de Dieu. Deuxième principe, donc les philosophies humaines ne peuvent nous enseigner des vérités, peuvent nous enseigner des vérités valables et utiles. Nous pouvons prendre l'exemple de Paul, qui a utilisé des citations philosophiques d'auteurs grecs. On va regarder deux passages. Le premier, dans Actes 17, verset 28, Paul dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Et on a également Tite, chapitre 1, verset 12, « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Cependant, nous notons que ces citations sont rares dans les écrits de Paul. Troisième principe, il propose des systèmes de pensée contredisant l'Évangile. Paul n'hésite pas à citer des déclarations spécifiques d'écrivains païens, mais il rejette fermement les systèmes de pensée que ses auteurs ont soutenus. Paul ne considère pas les philosophies de ce monde comme possédant une sagesse qui conduit les hommes à Dieu, mais il écrit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 à 21, « Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors on voit bien dans le verset 21, ça dit « Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. » Donc la philosophie ne nous amène pas à la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Quatrième principe, ils peuvent être utilisés, mais seulement avec une critique biblique radicale. On peut regarder le passage de Actes 17, les versets 22 à 31. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc on voit que Paul était dans la ville des Athéniens. Et il utilise un raisonnement pour corriger certaines visions païennes que ces hommes-là avaient, qui étaient une vision païenne faussée. Donc, qu'est-ce qu'il leur, il leur montre? Il leur montre leur ignorance, versets 23 et 30. Il leur montre également leur idolâtrie polythéiste et panthéiste, verset 29. Il leur montre aussi leur ignorance de la souveraineté absolue du Créateur et Seigneur, et il leur montre aussi leur incompréhension de la repentance, il leur montre leur ignorance du jugement dernier, et il leur montre leur ignorance de la résurrection de Christ, au verset 31. Donc on voit qu'à l'intérieur, il va dans cette ville et il leur annonce l'Évangile en passant un petit peu par un raisonnement où il les amène à voir plusieurs choses comme on vient de voir. Le cinquième principe, c'est que les systèmes philosophiques reconnaissent des méthodes légitimes de raisonnement. Paul utilise avec les savants païens de l'aréopage la logique et l'analyse, ou ce que Calvin appelle des arguments naturels. L'apôtre fait valoir à partir de l'identité de Dieu en tant que Créateur et Seigneur qu'il n'a pas besoin de temple ou de culte humain. Il fait valoir à partir de la ressemblance de l'homme à Dieu que Dieu n'est pas comme une idole matérielle. Paul croyait évidemment que ces philosophes reconnaîtraient ces méthodes logiques, car ils les utilisaient dans leur propre philosophie. Les théologiens de toutes les traditions ont généralement affirmé et employé les principes d'analyse réfléchie et d'argumentation logique communs aux non-croyants. Cependant, la manière dont les outils de la logique sont employés et quelle autorité est donnée à leurs conclusions est façonnée par la vision du monde d'une personne et ainsi la méthodologie philosophique doit être examinée d'un point de vue biblique pour soumettre toute chose à Dieu en tant que Seigneur. On va passer au deuxième point, c'est la place de la science et les principes qu'un chrétien doit avoir pour avoir une approche chrétienne face à la science qui est correcte et biblique. Autrefois, une branche de la philosophie ancienne, qui s'appelait la philosophie naturelle, ou la science, a commencé à prendre une vie distincte au début de la période moderne, a émergé comme une force majeure dans la culture humaine au 19e siècle et est devenue une autorité culturelle régnante au 20e siècle. Les avantages de la science sont grands, mais malheureusement, l'ère moderne a également apporté une dichotomie à la vision culturelle commune du monde. Depuis la période qu'on a appelée les Lumières et la réaction du romantisme, la mentalité occidentale a été divisée en deux compartiments, avec d'un côté la science, la logique, la matière, les machines et la vérité publique et objective, et de l'autre côté la religion, avec l'émotion, l'esprit, la moralité, la vérité et les valeurs personnelles d'autre part. Ce n'est en réalité qu'une manifestation de la fragmentation mentale que l'idolâtrie produit dans toutes les cultures qui se détournent de Dieu, car le polythéisme doit diviser le monde entre les dieux. Par conséquent, si les gens croient que la religion s'immisce dans le domaine de la science, ils s'y opposent, et peuvent chercher à punir le coupable comme s'il avait transgressé le sacré. Une approche chrétienne de la science doit commencer par reconnaître qu'il s'agit d'une forme spécialisée de la philosophie humaine. La science ne se contente pas de rendre compte de modèles empiriques, mais tente de formuler une vision de la réalité, qui est la métaphysique, selon laquelle nous pouvons développer notre esprit, qui est l'épistémologie, et diriger notre vie, qui est l'éthique. La science n'est pas nécessaire pour connaître et glorifier Dieu. La révélation spéciale de la Bible reste notre guide suffisant en ces matières. La science enseigne des vérités valables et utiles. Cela est vrai non seulement en physique, en chimie, en médecine et en ingénierie, mais aussi dans les études des émotions, du comportement et des relations humaines par des psychologues et des sociologues. La science non chrétienne, cependant, propose des systèmes de pensée contraires à l'Évangile parce que ses adhérents opèrent par rébellion contre le Dieu qui se fait connaître dans la révélation générale et spéciale. Le modèle scientifique actuellement en vigueur propose que l'univers ait émergé spontanément d'un point de densité infini lors d'un Big Bang il y a environ 14 milliards d'années. Toutes les structures remarquablement complexe et belle du cosmos. Selon eux, se sont développées par des interactions accidentelles de matière et d'énergie selon les lois naturelles. Tous les êtres vivants sont le produit d'une séquence de réactions chimiques aléatoires sur des millions d'années. Donc, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'évolution. Ce système philosophique non biblique, athée, impersonnel, matérialiste, irrationnel et amoral, doit être soumis à une critique biblique radicale. Cependant, la science reconnaît toujours des méthodes de raisonnement légitimes pour formuler des modèles et des lois pour expliquer des phénomènes naturels. Et les chrétiens peuvent utiliser ces méthodes et servir Dieu dans divers domaines scientifiques. Nous proposons les principes suivants pour une approche chrétienne de la science. Premier principe, les scientifiques opèrent sous une autorité déléguée. L'entreprise scientifique est enracinée dans la bénédiction et le mandat que Dieu a placé sur l'homme au commencement pour soumettre la terre et dominer tous ses animaux et plantes. Genèse chapitre 1, versets 28 et 29, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Le Seigneur a chargé l'homme de servir et de garder les autres créatures. On le voit par exemple dans Genèse chapitre 2, verset 15, L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On voit aussi dans un autre passage, dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, le verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Ainsi, le plus grand savant mentionné dans la Bible fut Salomon, le roi serviteur à qui Dieu a donné une compréhension remarquable des arbres et aussi des bêtes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. On peut lire, par exemple, dans le premier livre des Rois, au chapitre 4, les versets 33 et 34, « Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Il y a donc une noblesse à la science, mais c'est une noblesse subordonnée, déléguée par le Créateur. Si cette subordination exaspère les méchants, cela ne fait que démontrer leur rébellion irrationnelle contre Dieu, qui les a créés et les gouverne. La science ne devrait jamais promouvoir l'autonomie humaine, mais diriger l'humanité à agir en tant que gardien de la création de Dieu pour son bien et pour sa gloire. Ce principe jette les bases d'une responsabilité écologique qui évite les extrêmes idolâtres de l'environnementalisme non chrétien. Deuxième principe, les scientifiques peuvent investiguer la nature avec une rationalité confiante. Le christianisme en particulier, la doctrine de la création, énoncée dans la Genèse, fournit une base raisonnable pour faire de la science. Le christianisme crée une culture au sein de laquelle la science a du sens et est valorisée car le christianisme enseigne plusieurs choses. Premièrement, l'univers n'est pas Dieu et doit être donc étudié, mais non pas adoré. L'univers est réel, non pas une illusion, comme l'enseignent certaines religions panthéistes. Troisièmement, l'univers est ordonné par la sagesse d'un créateur et non par un chaos sans signification. Quatrièmement, l'univers est régulier dans ses modèles, créé par un dieu de loi et d'alliance. Cinquièmement, l'univers est bon, ainsi que la Terre, et leur étude mérite amplement l'effort. Et sixièmement, l'univers et le monde peut être compris parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, versets 4 et 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Troisième principe, excusez, les scientifiques doivent travailler dans une attitude d'humilité. Quiconque travaille dans une discipline académique avec le moindre réalisme reconnaît que son ignorance est supérieure à ses connaissances. Le Seigneur pose à Job une série de questions sur l'univers afin de lui rappeler à quel point il est faible et à quel point il comprend peu les voies du Créateur. Dieu dit, par exemple, dans Job chapitre 38, les versets 4 et le verset 16, d'abord le verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Et le verset 16, « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? » On peut aller aussi juste un peu plus loin dans Job, chapitre 39, les versets 1 et 2. « Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? » Le scientifique le plus brillant est comme un enfant devant l'incroyable splendeur de l'univers. Il devrait donc s'abstenir de théories à la légère. Il peut y avoir des aspects de la création de Dieu qu'il nous est impossible de comprendre pleinement. Quatrième principe, les scientifiques doivent se rendre compte que leurs conclusions ne possèdent que la certitude humaine, une certitude qui est limitée ou qualifiée de la probabilité. Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. La science n'est pas la vérité pure et ajoute constamment de nouvelles idées et corrige ses modèles. Les théologiens doivent également réaliser que leur interprétation des Écritures peut nécessiter une correction. Cependant, la Bible elle-même, étant la parole de Dieu, fonctionne comme la norme pour juger toutes les autres formes, y compris nos théologies et nos théories scientifiques. De plus, la Bible a un autre avantage sur les données de la science. Elle nous parvient en langage humain. Cela donne à la parole de Dieu une plus grande clarté que le monde naturel. Si une théorie scientifique proposée contredit l'enseignement de la parole de Dieu, la ligne de conduite la plus sage et la plus rationnelle est de se soumettre à la parole de Dieu, car qui a plus d'autorité pour expliquer l'univers que son auteur? Cinquième principe, les scientifiques doivent se rappeler que leur étude sera toujours insuffisant pour les rendre sages. La science seule ne peut fournir une base de sens ou de moralité. Le réductionnisme scientifique, qui prétend que seul ce qui est empiriquement mesurable est réel, rend la vie absurde, c'est-à-dire sans signification et sans valeur. Par conséquent, la vie personnelle et la vie de société ne peuvent pas être construites sur la science car elle nous donne des outils, mais ni la perspicacité, ni la maîtrise de soi pour les utiliser pour le bien. Job, chapitre 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Seule la religion basée sur la révélation divine peut nous rendre sages. Seule la parole de Dieu peut nous conduire sur les chemins de la paix avec lui et avec les uns les autres. Et sixième principe, les scientifiques doivent travailler avec une intégrité craignant Dieu. La science n'est jamais neutre. Aucune activité humaine ne l'est. De la même manière qu'un chrétien ne doit pas baisser la tête, ne doit pas laisser sa tête et sa pensée à l'extérieur de l'Église, de même, le scientifique ne doit pas laisser sa conscience à la porte de son laboratoire. Toute activité humaine poursuit un but. Quel est le but de la science? Il ne doit pas être l'orgueil du savoir, l'orgueil du pouvoir et l'orgueil de la richesse. Dans Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » La science existe pour glorifier Dieu. On voit dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, au verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Le désir et la prière de tout scientifique devraient être, comme on lit dans le psaume 86, verset 11, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, et la science des saints, c'est l'intelligence. Et autre principe, septième, les scientifiques devraient utiliser toutes leurs trouvailles pour promouvoir une doxologie de gratitude. Psaume 8, versets 3, 4 et verset 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Et le verset 9. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors on remarque que c'est après avoir observé le ciel qu'on a une doxologie, donc une rendre gloire à Dieu dans un esprit de gratitude. Qu'ils étudient la physique des particules subatomiques, la biochimie d'une cellule vivante, le comportement des oiseaux, les courants de l'océan ou le rayonnement du soleil, les scientifiques ont le privilège de scruter la révélation générale de Dieu et sa gloire. Ils devraient exceller à remercier Dieu et à le glorifier en tant que Dieu, et à aider les autres à faire de même. Trois applications que je vois, on pourrait pouvoir probablement en avoir beaucoup plus que ça, mais on va voir ces trois-là. La première, tant la philosophie que la science peuvent être utilisées avec profit par les chrétiens. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que ces disciplines doivent absolument être encadrées par l'enseignement des Saintes Écritures et leur être subordonné. Deuxièmement, prions le Seigneur de nous donner de savoir utiliser les disciplines de la philosophie et de la science avec prière, soumission prioritaire à la Bible et gratitude envers Dieu. Tout est pour sa gloire. Troisième application, connaissons bien les grandes et nombreuses limites des disciplines de la philosophie et de la science. Maîtrisons bien les Saintes Écritures pour pouvoir réfuter leurs erreurs, prévenir leur mauvais usage et encourager leur sage utilisation pour l'avancement de l'Évangile. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni pour tous ses dons, son Fils Jésus, les Saintes Écritures, sa grâce et ses innombrables bénédictions, qu'il soit loué éternellement. Amen.